Nous sommes le 6 octobre, nous fêtons Saint-Bruno. Bruno serait né à Cologne, vers 1030, en Allemagne, d'une famille de haut rang dont le nom est peut-être Hartenfaust. Il commença ses études dans sa ville natale, à la collégiale de Saint-Cunibert. Il aurait quitté Cologne assez jeune pour continuer ses études à Reims, ville réputée à l'époque pour la qualité de ses enseignants. Vers 1055, il revint à Cologne pour recevoir de l'archevêque Annon, avec la prêtrise, un canonicat à Saint-Cunibert. En 1057, l'archevêque de Reims, Gervais de Bellême, lui confia la direction de l'école dont il avait été l'élève. Il y enseigna la grammaire, la philosophie et la théologie pendant 20 ans. En 1067, Gervais, l'archiprêtre de Reims, mourut. Il fut remplacé par un homme sans scrupules, Manassès de Gournay, qui pillait les biens de l'Église. Voulant cependant avoir l'estime du clergé, Manassès nomma Brulot chancelier de la cathédrale et directeur de toutes les écoles de Reims. Cependant, l'attitude de Manassès devenant de plus en plus insupportable, un concile réuni à Lyon en février 1080 prononça sa déposition. Cette sentence fut confirmée par le pape Grégoire VII qui ordonna au clergé de Reims de chasser l'indigne archevêque et d'en élire un nouvel à sa place. De nombreuses personnes pensèrent alors à Bruno pour remplacer Manassès de Gournay sur le siège archiépiscopal de Reims. Mais Bruno, qui avait déjà formé le dessein de se consacrer dans la solitude à la prière avec quelques amis, refusa donc le siège prestigieux qui avait été naguère celui de Saint-Rémy. Bruno mit de l'ordre dans ses affaires, donna tous ses biens aux pauvres, puis, en 1083, avec deux amis, il se rendit en Bourgogne, où saint Robert de Molème leur remit un ermitage qu'il jugeait propice à la recherche de Dieu. Mais Bruno voulait encore plus de solitude. Il est intéressant maintenant de connaître comment Bruno fut appelé à une vie d'ermite. D'après une tradition que répètent les historiens chartreux, cette résolution aurait été fortifiée en lui en 1082 par l'épisode parisien des funérailles du chanoine Raymond d'Iocres, qui se serait trois fois levé de son cercueil pour se déclarer jugé et condamné au tribunal de Dieu. Que se passa-t-il au juste pour que ce fait tragique décida de la vocation de Bruno? Nous venons de comprendre que Bruno avait un ami à l'université de Paris, le célèbre chanoine Raymond d'Iocres, dont tout le monde admirait la vertu et la science. Or cet ami vint à mourir, et pendant ses obsèques solennelles, Bruno entendit soudain ces paroles « Réponds-moi, quelles sont mes iniquités ?» Le mort se releva et dit d'une voix effrayante « Je suis accusé par un juste jugement de Dieu. » Une panique indescriptible s'empara de la foule et la sépulture fut remise au lendemain. Mais le lendemain, au même moment de l'office, le mort se leva de nouveau et s'écria « Je suis jugé par un juste jugement de Dieu. » Une nouvelle terreur occasionna un nouveau retard. Enfin, le troisième jour, le mort se leva encore et cria d'une voix encore plus terrible « Je suis condamné au juste jugement de Dieu. » S'agit-il d'une légende ou d'un fait réel? Nous ne le saurons probablement jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1083, Bruno brisa les derniers liens qui le retenaient au monde. Il alla d'abord en Bourgogne avec ses deux compagnons, puis, conseillé par saint Robert de Molème, Bruno s'adressa au Saint-Évêque Hugues, qui, répondant à ses aspirations vers une solitude plus profonde, leur indiqua un désert affreux et grandiose à la fois, connu sous le nom de Grande Chartreuse, situé à 1175 mètres d'altitude. On disait à l'époque que ce site grandiose était à la fois très isolé au fond d'une forêt épaisse et peuplé de bêtes sauvages. En fait, il s'agit d'une vallée étroite et resserrée des préalpes où de grands sapins laissent à peine pénétrer la lumière et que les neiges isolent presque complètement du monde extérieur durant l'hiver interminable. Le cadre austère de la Grande Chartreuse paraissait approprié à la forme de vie entièrement centrée sur Dieu que Bruno désirait. Quelques cellules en bois et une chapelle furent rapidement construites. Les petits ermitages étaient reliés entre eux par une galerie qui permettait aux moines de se rendre en toute saison à l'église pour les matines, les vêpres et parfois à la messe qui, alors, n'était pas quotidienne. Ils prenaient ensemble le repas du dimanche suivi du chapitre. Le travail, la prière et un profond silence furent pour Bruno et ses compagnons l'ambiance de leurs premières années de retraite à la Grande Chartreuse. Notons au passage que les compagnons de Bruno étaient alors au nombre de 6. En effet, saint Bruno savait joindre sa soif intense de la rencontre de Dieu dans la solitude à une capacité exceptionnelle de se faire des amis et de faire naître parmi eux un intense courant d'affection. Petit détail amusant, une tradition de l'ordre raconte que saint Hugues aurait vu dans un songe les 7 ermites sous l'apparence de 7 étoiles. Bruno croyait finir sa vie en paix, dans le silence et la pénitence. Mais au bout de 6 ans, le Seigneur en décida autrement. En 1090, Bruno dut quitter sa retraite et devenir le conseiller du Saint-Pape Urbain II, un de ses anciens élèves qui sollicitait ses conseils sur les réformes à entreprendre dans l'Église. Bruno refusa l'archevêché de Reggio que le pape Urbain II aurait voulu lui confier. Et en 1092, il alla fonder en Calabre de nouveaux ermitages. C'est dans l'un d'eux, la Chartreuse de San Stefano in Bosco, qu'il put retourner à sa vie solitaire. C'est là aussi que Bruno mourut le 6 octobre 1101, à l'approche de sa dernière heure. Pendant que ses frères désolés entouraient son lit, Bruno parla du bonheur de la vie monastique, fit sa confession générale, demanda humblement la Sainte Eucharistie et s'endormit paisiblement dans le Seigneur. Dès le lendemain de sa mort, sa réputation de sainteté s'accrut encore en raison des miracles attribués par son intercession.